sur ce même site de Radio G. Bien sûr, faites-vous plaisir. À la semaine prochaine et d'ici là, passez de jolis jours.
Radio G, 101.5 FM.
A 1, 2, 3,
4. Le manche disque. L'émission qui tourne. À 33 tours minutes.
Bonsoir à tous et à toutes, c'est le Manche Disque, l'émission du disque vinyle sur Radio G. Une nouvelle fois, on va parcourir ensemble un certain nombre d'albums, un certain nombre de morceaux que je vous ai sélectionnés. Je dis « je » parce que, exceptionnellement pour cette 19e émission, je vais être tout seul aux platines, étant donné que Julien est retenu pour des obligations familiales, puisqu'il a vécu la semaine dernière un heureux événement. Voilà, félicitations à toi Julien, félicitations aussi à la maman, à toute la famille. Et donc je vais me charger d'animer cette émission pour, je l'espère, le plus grand plaisir de tous, avec un fil rouge en forme de dédicace que je vais vous laisser découvrir. Donc bienvenue dans cette 19e émission. On commence tout de suite. We'll be right back. Et vous l'aurez reconnu, le fameux Voodoo Child du Jimi Hendrix Experience, 1968, un album mythique pour tout collectionneur de vinyle, mythique par sa pochette, sans parler de la musique excellente, hein, mais ça, Jimi Hendrix, je vais pas vous le vendre ce soir, hein, pour ceux qui connaissent, y a pas besoin, et pour ceux qui connaissent pas, qui sont peut-être trop jeunes, qui sont passés à côté de Jimi Hendrix, j'ai du mal un petit peu à m'imaginer comment, mais ça peut toujours s'imaginer, eh bien, dépêchez-vous d'aller écouter ce malheureusement membre du club des 27, puisqu'il est mort lui aussi, comme beaucoup d'autres artistes majeurs à 27 ans. Electric Ladyland, il est connu par les collectionneurs de vinyle, je vous disais, par sa pochette mythique de femme nue portant le portrait, en fait, de Jimi Hendrix. Voilà. C'est un album qui, depuis, a perdu, en fait, cette pochette dans les rééditions successives qui ont pu avoir lieu. Et pour se le procurer, eh bien, ça coûte quand même une petite fortune. Moi, personnellement, je n'ai pas mis ce prix-là parce que je me refuse à mettre des prix à trois chiffres, hein, sur des albums, aussi bons soient-ils, quand il existe des rééditions ou, c'est le cas de ce qu'on vient de s'écouter, hein, des bootlegs aussi, c'est-à-dire des éditions non officielles qui reprennent en fait les visuels de cette pochette mythique pour le côté collection, mais qui permet aussi de garder beaucoup, beaucoup d'argent dans son porte-monnaie pour acheter notamment d'autres projets. Donc je vous propose maintenant d'enchaîner avec, comme d'habitude, hein, tout autre chose, hein, puisque je vous propose de découvrir un groupe qui s'appelle New Birth. Voilà, New Birth, alors ça y est, le fil rouge commence un petit peu à se dessiner. New Birth, c'est un groupe de soul, on va dire R&B, américain, noir américain, qui a une discographie plutôt inégale, mais avec quand même toujours, je trouve, dans leur album, quelques pépites quand même intéressantes. C'est le cas de cet album, hein, qui s'appelle Love Potion. Love Potion, qui a un point commun avec le Electric Ladyland, c'est-à-dire le côté un petit peu coquin, un petit peu dénudé de la pochette, puisque là on a l'ensemble du groupe complètement nu, même si on voit rien de trop trop compromettant. On voit quand même qu'ils sont totalement nus. C'est un gatefold. Quand on l'ouvre, on les voit de dos avec des mains qui se baladent un petit peu par-ci par-là. Donc c'est plutôt choisi. Hein, comme thématique, Love Potion, voilà, on s'imagine un petit peu l'esprit glamour qui a voulu être transmis. Côté musical, on est sur quelque chose d'assez, je le disais tout à l'heure, hein, y a à boire et à manger sur cet album-là. Il y a des titres plus efficaces que d'autres, mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce titre que je vous propose d'écouter là, qui s'appelle We Are All God's Children. Un titre quand même en contraste avec la pochette, hein, puisqu'il est très marqué religieux, très ancré dans la tradition noire américaine gospel. Donc ça commence d'ailleurs, je crois, on va le vérifier tout de suite, mais je pense que le chant commence par Thank You Jesus. Voilà, donc on est vraiment dans le gospel, dans la soul. C'est un titre quand même très intéressant. Enfin, je trouve qu'il est très très efficace, très pacificateur, très très unifiant, comme son titre nous le suggère. Et non seulement ça respecte le fil rouge que je me suis fixé pour cette émission en dédicace à mon poteau Julien, mais en plus il me semble que au-delà du côté religieux, le côté unificateur résonne aussi avec l'actualité aujourd'hui, et notamment tous ces mouvements sociaux et ces soulèvements salutaires, me semble-t-il, qui ont lieu aux quatre coins du monde dans cette période, on va dire, où il est grand temps d'en finir avec les discriminations, notamment raciale. Ça se passe aux États-Unis, ça se passe partout ailleurs, donc ça concerne tout le monde. Voilà, donc double dédicace du coup, et à Julien et à l'actualité avec ce We Are All God's Children de New Birth 1976.
Dear Lord, and fellow Americans, oh Lord, I just want to thank you. I want to thank you, Jesus. You knew one day
sommes toutes les enfants de Dieu. Anaknu, Kamanu, Yerdi, Ed. Bizhet, Alamun, Chiju, Kara. Nosotros somos todos los niños del Dios.
Comme annoncé, c'était We Are All God's Children du groupe New Birth en 1976. Et pour enchaîner, on va rester dans la musique afro-américaine avec un grand, grand chanteur de la musique soul-funk, Curtis Mayfield, avec un titre issu de la bande originale du film Superfly qu'il a composé en 1971. Et pour respecter mon fil rouge, encore une fois, je vous ai choisi le titre Little Child Running Wild, qui est un des classiques. Enfin, je pense que tous les titres de cet album sont devenus classiques tellement ils sont tous les plus excellents les uns que les autres, et ultra connus, utilisés dans des pubs, dans des films, dans des séries. Donc c'est un album vraiment indispensable à tout collectionneur amateur de, on va dire, de black music qui se respecte. Surtout que 1971, on est vraiment dans une espèce de période, dans un âge d'or incroyable, hein, qui va ensuite peut-être s'atténuer un petit peu à partir de 1975, mais bon, ça c'est selon les goûts de chacun. En tout cas, c'est le constat que j'ai pu faire moi au travers de ma discographie. Superfly, on est vraiment dans le cœur du top de la crème de tout ce que vous voulez. Little Child Running Wild, je précise quand même, hein, que le fil rouge il concerne le titre des morceaux, le titre des artistes. Pas non plus les propos dans les chansons, hein, parce que Little Child Running Wild, c'est un morceau assez glauque quand même dans ce qu'il raconte. Voilà, j'ai voulu faire un fil rouge, hein, Julien, mais tu m'excuses, hein, déjà l'effort est là. Je me limite limite à tout ce que j'ai dans ma discographie. La contrainte est déjà un petit peu importante. Donc voilà, tu me pardonneras si le fond, des fois, c'est un petit peu pas très très joyeux. La dédicace s'arrête juste au côté, au titre, aux intitulés. Je n'y vois aucune espèce de prédiction sur l'avenir, parce que ce titre-là, il est un petit peu noir. Il raconte quand même la réalité du ghetto. Et pour les petits enfants, c'est pas toujours rose. Donc voilà, Little Child Running Wild, Curtis Mayfield, excellent morceau.
Le manche disque.
S'écouter le titre Pretty Baby du groupe Blondie, que vous aurez sûrement reconnu avec, par la voix de sa chanteuse qui est une icône absolument incontournable pour moi, une espèce de symbole du glamour. Voilà, j'avoue qu'effectivement elle m'a séduit, voilà, elle m'a séduit, elle continue à me séduire par son caractère et son engagement à toute épreuve et par son parcours. Pretty Baby, donc c'est un titre que l'on retrouve sur l'album Parallel Lines, sorti en 1978, un album très vendu et très bon, un de mes préférés de Blondie, avec bien entendu des titres phares, notamment One Way or Another, voilà, je le cherchais, qui est vraiment un classique du groupe, qui a bâti beaucoup de leur succès. Je vous le conseille tout à fait, hein, je vous le conseille tout à fait. Et on va enchaîner Blondie avec un autre groupe qui m'est très cher, hein, peut-être un petit peu moins glamour que Debbie Harry, mais tout aussi savoureux musicalement. C'est le groupe The Cure. The Cure qui a la carrière qu'on connaît avec les tubes qu'on connaît. Donc ce morceau est peut-être un petit peu moins connu. Il s'appelle The Baby Screams. Il est issu de l'album The Head on the Door, paru en 1985, donc en plein milieu des années 80. Donc The Cure, hein, symbole new wave post-punk, avec ce titre très très intéressant aussi, puisqu'il est bien révélateur quand même du son des Cure en 1985, puisque les Cure, me semble-t-il, ont vraiment un son qui évolue au fil des albums. C'est ce qui fait aussi la saveur de collectionner leur discographie. Une nouvelle fois, The Baby Streams, ça colle tout à fait au quotidien, n'est-ce pas, des nouveaux papas comme notre Julien préféré, puisque j'imagine que d'habitude c'est surtout du son issu de la platine qui remplit les oreilles, mais là certainement que jour et nuit ça doit être une autre histoire. Ceux qui savent, savent. Voilà, allez, on écoute The Cure, The Baby Screams. Chers auditeurs, vous êtes toujours sur Radio G 101.5 FM à Angers, toujours dans l'émission Le Manche Disque, l'émission des disques vinyles sur Radio G, le lundi soir, tard dans la nuit, on se retrouve autour du son délicat des micro-sillons. Tout de suite, donc, on s'est écouté un titre de The Cure qui est bien d'ailleurs à écouter la nuit, The Cure, hein, ce son un petit peu dark et sympa. Tout de suite, on va s'enchaîner avec autre chose. On va retourner du côté de la soul music, puisque si je vous ai annoncé en début d'émission la bonne nouvelle, l'heureux événement qui fait l'absence de Julien ce soir à mes côtés, je vous ai peut-être pas dit que cette bonne nouvelle, eh bien, c'est une petite merveille, c'est une petite fille. Et donc, ça m'a donné envie de vous passer ce titre mythique d'Otis Redding, issu de l'album Otis Blue, qui s'appelle tout simplement My Girl. Et My Girl, on va l'écouter tout de suite. Une ride, hein, ce morceau d'Otis Redding, My Girl. Initialement, ce morceau, d'ailleurs, des Temptations, hein, en 1964, hein, qui a été repris un an plus tard par Otis Redding, en 1965, sur l'album, je vous le disais tout à l'heure, Otis Blue. Et toujours un bonheur à écouter, même en 2020, c'est ça, les tubes intemporels. C'est quelque chose, quand même, de toujours très surprenant dans l'efficacité, malgré les époques. Tout de suite, on va enchaîner avec un autre titre, hein, d'un autre univers et d'une autre époque, justement. 1980, David Bowie, puisque je ne pouvais pas faire autrement que de vous choisir un titre de David Bowie, étant donné que ceux qui nous écoutent régulièrement, je pense, le savent, mais c'est le dieu, je pense, hein, l'incarnation divine du point de vue de Julien. C'est de loin, je crois, hein, et je suis sûr même, son artiste artiste préféré de tous les temps. Donc voilà, je ne pouvais pas faire autrement que de vous proposer un titre de David Bowie. Ce titre-là, il s'appelle Scream Like a Baby. Alors encore une fois, désolé, hein, ce n'est pas un titre, on va dire, ce n'est pas une chanson écrite dans un univers très fun, mais le titre collé au truc, hein, au fil rouge, c'est un très bon morceau. Et puis surtout, c'est le seul que j'ai trouvé de Bowie. Alors je ne suis pas aussi spécialiste que Julien, peut-être suis-je passé à côté de choses plus adaptées, mais en tout cas celui-ci, moi, il m'a bien plu. Je me suis dit, allez, c'est le clin d'œil ultime. J'espère que vous, auditeurs, hein, nous pardonnerez cette espèce de d'entre-soi, ne vous sentirez pas exclus par cette dédicace, car j'espère aussi avoir fait des choix qui vous ont ravi et qu'on a eu allié l'utile à l'agréable. Voilà, donc on s'écoute tout de suite un morceau du maître David Bowie sur son album donc Scary Monsters 1980, Scream Like a Baby.
Yeah.
Et voilà, chers auditeurs, j'en ai fini sur ce David Bowie avec le fil rouge de l'émission, hein, une nouvelle fois. J'espère que vous aurez apprécié ce petit clin d'œil à notre ami Julien, apprécié musicalement, parce que ça a été aussi au-delà du fil rouge, hein, et de la dédicace un peu private. Ça a été l'occasion de passer des bons morceaux de groupes et d'interprètes, me semble-t-il, incontournables. On va changer complètement de sujet, hein, dans les minutes qui restent, puisque plus rien à voir avec les naissances, si ce n'est une renaissance, puisque je vous annonce que ce soir, chers auditeurs, pour cette 19e émission, après cette période de confinement compliquée, c'est le retour de l'interview de fin d'émission du Manche Disque. Voilà, on l'avait suspendu évidemment pour des raisons assez évidentes, hein, puisque réaliser des interviews c'était un petit peu compliqué pendant le confinement. Pour tout vous dire, ça l'est toujours, hein. Donc en fait, les interviews, ce qui va se passer, c'est que prochainement, je sais pas encore, hein, il faut qu'on en discute avec Julien quand il aura repris un petit peu ses esprits, mais on va voir si on vous en rediffuse à toutes les émissions ou à quelques-unes, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que ce sera des rediffusions. On va cibler notamment des personnes qu'on avait interviewées au lancement de l'émission, hein, dans les premiers mois, et notamment des personnes, on a essayé de privilégier des personnes qui tiennent notamment des commerces là, qui essayent de relever la tête après le confinement. Donc voilà, ce sera pour leur donner un nouveau petit coup de projecteur, et puis ça permettra justement à ceux qui sont passés à côté de la première diffusion de ces interviews, de se rattraper, voilà. Donc on avait fait une petite interview quand même quelques jours avant le confinement. On avait interviewé, en plus c'était une interview importante pour Julien et moi, puisque on avait interviewé Jean-Yves du Jokers. Vous le savez, hein, si vous nous écoutez, à quel point le Jokers est un lieu que nous affectionnons particulièrement avec Julien, que nous affectionnons en tant que bar, mais aussi en tant que salle de concert. Ça a été l'occasion là-bas d'aller voir des artistes vraiment, vraiment très, très, très intéressants, dans des ambiances assez intimistes et du coup absolument hors du commun, on va dire, comparé à des grandes salles, et d'avoir aussi accès aux artistes de façon avec plus de proximité, et donc ce qui gâche rien, de se faire dédicacer un vinyle en vente à l'entrée, etc. Donc on a eu des très bonnes expériences. On a bien envie que ça recommence, même si j'entends bien que la remise en place des concerts dans le contexte actuel, elle est compliquée. Donc voilà, on souhaite en tout cas tout le monde beaucoup de courage par rapport à cette période de, on l'espère, de transition. Mais le Jokers, voilà, on l'aime aussi en tant que bar, hors concert, hein. Après l'émission, on a une petite tradition d'ailleurs d'aller boire un verre là-bas avec Julien, après chaque émission, en direct. Donc voilà, et il se trouve que le bar, il a réouvert. Donc je vous invite à aller boire un coup là-bas. Moi, je l'ai déjà testé. Bien entendu, il y a un protocole sanitaire, hein, comme dans tous les lieux qui s'ouvrent au public actuellement. Alors le risque, bien sûr, dans des bars, je dirais, qui sont portés sur la convivialité, c'est justement de perdre cet esprit en fait qui nous plaît, de convivialité, de proximité, etc. Mais écoutez, moi, je l'ai testé au Jokers, en tout cas. Je l'ai testé aussi à d'autres endroits. Mais puisqu'on parle du Jokers, je peux vous dire que l'ambiance n'est pas tout à fait gâchée. Voilà. Bien entendu, c'est différent. Il y a des règles qu'il s'agit de suivre, mais il y a moyen de passer un très, très, très bon moment. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait avec certains amis. Je salue toute la bande d'ailleurs de Funkadelica qui était avec moi quand on a reposé nos fesses sur les chaises du Jokers. Donc, je vous le disais, on va s'écouter l'interview de Jean-Yves du Jokers. Donc il va nous parler du Jokers, il va nous parler aussi de la salle de concert, puisque comme je vous le disais, ça a été fait juste avant le confinement et on était encore sur des jauges bien supérieures à celles du Jokers, hein, qui devait fermer. Donc a priori on avait bon espoir, et puis c'est arrivé très, très, très rapidement, et puis finalement ça a pas pu se faire. Donc on s'écoute, on va s'écouter tout à l'heure donc l'interview de Jean-Yves. Et puis, bien évidemment, vous vous en souvenez peut-être, mais l'invité du Manche Disque, eh bien, il a aussi le privilège de conclure l'émission avec le titre qu'il choisit, un titre qui est important pour lui, qui lui a été inspiré peut-être par l'interview juste avant, où on fouille un petit peu dans les souvenirs d'auditeurs, avec toujours ces mêmes questions aux mêmes invités, pour permettre de mettre en évidence certaines différences de point de vue et puis certaines sensibilités différentes. Donc voilà, on va s'écouter ça avec avec beaucoup d'intérêt. Et puis une nouvelle fois, voilà, gros big up aux Jokers, à toute l'équipe qui essaye de réinventer un peu sa façon de bosser pour nous permettre de passer des bons moments. Un énorme salut aussi à tous les autres lieux qu'on fréquente, hein, et qui réouvrent aussi et qui sont dans les mêmes galères de la même manière. Voilà, la prochaine émission, je pense qu'on sera en mesure de vous parler aussi du Discard Day, hein, qui arrive, hein, avec les premières ventes, en tout cas la première salve, puisque j'ai appris que ça se ferait en plusieurs fois, mais en tout cas la première salve de vente le 20 juin, donc voilà, dans 15 jours, on sera en mesure, je l'espère, de vous avoir préparé un petit débrief de ce qu'on a acheté avec Julien, en espérant qu'il est sorti un petit peu la tête de l'eau, mais je n'en doute pas, il est gaillard, le bonhomme. Allez, salut à tous, on s'écoute tout de suite l'interview de Jean-Yves, et je vous dis à dans 15 jours. Ciao, ciao, merci de votre écoute.
C'est une interview particulière pour le Manche Disque, puisque pour les auditeurs qui nous suivent sur notre page Facebook, ils auront pu se rendre compte à quel point Julien et moi on aime fréquenter le Jokers, on aime venir au concert, on repart souvent. Ouais, on repart souvent d'ailleurs avec ce qui est une bonne nouvelle aussi pour nous, avec des galettes dédicacées très souvent par des artistes qu'on a le plaisir de voir ici. Donc, je suis très content d'être au Jokers pour l'interview donc de Jean-Yves. Le patron, le boss du Jokers, voilà. Je vais te laisser en parler peut-être aux auditeurs peut-être certains rares qui ne connaîtraient pas le Jokers, ça m'étonnerait, mais enfin quand même.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise par rapport à ça qu'on a ouvert en 2013?
Ouais.
Qu'on a commencé les concerts 6 mois après, que petit à petit la salle s'est bonifiée au niveau technique et au niveau capacité aussi. Et que maintenant, bon, on est sur une lancée avec beaucoup de groupes internationaux qui viennent régulièrement nous voir, ce qu'on appelle des day-off en fait. Souvent, on réussit à les choper pendant les tournées, sur des jours qui généralement ne sont pas vraiment fréquentés par les grosses salles classiques, style les SMAC ou les Zénith ou... Forcément, nous, on n'a pas les groupes qui... Si, on a des groupes, c'est vrai, qui vont de temps en temps dans les SMAC, dans les Zénith, et on les chope durant les day-off, et c'est pour ça qu'on a une programmation qui nous plaît de plus en plus.
Ouais, et qui nous plaît aussi à nous en tant que spectateurs. Puisque ce qui est bien aussi, je trouve, au Joker, c'est justement d'être peut-être dans une échelle, en tout cas, de capacité réduite par rapport aux grandes salles que tu cites. Et du coup, ça donne tout un côté intimiste très intéressant.
D'un autre côté, on n'a pas le choix. Hein. On a des murs, oui, et on ne peut pas les pousser.
Mais enfin, voilà, c'est là, on prend le bon dans chaque chose. Et ça, je trouve que ça apporte quelque chose aussi. Et en parlant des groupes qui viennent, et je disais tout à l'heure qu'avec Julien, on avait l'habitude de repartir avec des disques vinyles. C'est vrai que rares aujourd'hui sont les artistes qui ne font pas de disque vinyle quand ils font un disque, quoi. Ça a certainement à voir avec ce qu'on appelle le revival du disque vinyle, c'est-à-dire une consommation, en tout cas à l'achat, des consommateurs qui vont chercher ce support qui a eu à un moment donné un creux quand même avec l'apparition du CD. Si on se voit aussi aujourd'hui, Jean-Yves, c'est parce que je sais que tu as aussi un rapport particulier avec cet objet qui est le disque vinyle. Quel est toi, ton analyse, en fait, de ce pourquoi ça revient à la mode?
Tu n'es peut-être pas sans savoir que j'ai été disquaire pendant plus de 20 ans.
J'en ai entendu parler.
Et que le disque vinyle, en fait, comme tu le disais tout à fait correctement, a disparu petit à petit au profit du CD. Et en fait, ça coûtait de plus en plus cher aux majors de faire du vinyle, et ça devenait carrément une pièce de collection avec des prix défiant toute concurrence. Petit à petit, le CD a disparu également au profit de la musique dématérialisée, comme tout le monde le sait. Mmh. Et là, on a vu une autre forme de clientèle qui a découvert un objet qui a plus le côté culturel que la musique dématérialisée. Et alors, on parle de revival, mais on est même pas au milieu, on n'est même pas au niveau en vente de vinyle, au niveau de ce qu'on pouvait être au milieu des années 90. Mmh. Donc le revival est tout à fait petit, si je peux m'exprimer ainsi. C'est pas non plus la razzia sur le vinyle, mais il y a une clientèle qui reste fidèle et qui va rester, à mon avis, fidèle pendant longtemps. Ça va être le seul support musical qui va être conservé. La musique, forcément, numérique, elle va toujours exister, et on est parti pour un bon bout de temps. Mais le vinyle, lui, va rester en tant qu'objet, en tant que pièce de collection, surtout.
Est-ce que toi, à titre personnel, tu te souviens de la première fois que tu as écouté un disque vinyle
Je m'en souviens même très très bien. C'est un de mes amis qui m'avait offert un 45 tours, j'avais 12 ans. Il m'avait demandé qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir. En fait, il avait mal compris. Je lui avais demandé un morceau de Divo, un 45 tours de Divo qui s'appelait Sloppy. C'était un de leurs premiers singles qui est sorti en 76 sur le label Beastiff. C'était vraiment le tout premier single de ce label-là et le premier single du groupe. Et il est arrivé avec Be Devotion et Sheila. Donc forcément,
c'est
j'étais
pas la même chose.
Voilà. Voilà, c'est et du coup, moi j'ai été racheter mon single à moi.
D'accord.
Ça a été le premier single que j'ai acheté.
Et tu l'as écouté quand même le 45 tours ou pas?
Pas vraiment, non.
Pas vraiment. T'enchaînes avec l'autre question. Du coup, le premier disque que tu te souviens avoir acheté, est-ce que c'est celui-là du coup?
Non, c'est le premier Stooge.
D'accord.
Ouais, en 69.
Premier album?
Ouais, premier album. Et l'album de Divo après, et après, voilà. Et après, j'en ai acheté par paquet de 10.
Ouais, d'accord.
Ouais, toutes mes économies allaient dedans.
Jusqu'à en avoir pas mal aujourd'hui, j'imagine.
Ouais, plusieurs petits milliers.
D'accord,
ouais.
Donc c'est plus que pas mal.
Ouais.
Ouais. Et alors, tu te considères comme un collectionneur ou pas?
Ouais. Ouais. Oui, parce que il y en a même certains qui sont jamais ouverts, en fait.
D'accord.
Parce que je les ai maintenant de version dématérialisée, et il y en a même certains que j'ai en plusieurs versions, en fait. Parce qu'avec les galettes de 180 grammes, les rééditions, alors il faut faire attention aussi, parce qu'il y a eu quelques rééditions au tout départ qui étaient juste des copies de CD gravées sur vinyle. Mmh. Là maintenant, tout le monde a un peu découvert le poteau rose de chez Universal, entre autres, pour ne pas les citer. Mmh. Et maintenant, ils rééditent réellement avec les masters originales. Et là, ça devient vraiment intéressant parce que la gravure, elle est plus profonde, en fait, que ce qui se faisait à l'époque. Et d'où l'épaisseur de la galette. Et le son, quand vous avez du bon matériel, c'est terrible. Ouais.
Donc, plusieurs milliers, c'est ça.
Ouais.
Et certains, donc, en plusieurs exemplaires.
Ouais.
Donc, plutôt les pressages de pays différents.
Non,
mais
en fait, non. Je fais beaucoup de foires, en fait, au disque. Et puis, souvent...
Ah oui, d'accord.
Et ça m'est arrivé. Il y a un petit exemple, c'est le premier Joe Jackson. Alors, ça dit peut-être pas grand-chose à beaucoup. Qui s'appelle Look Sharp. Je l'ai en 4 exemplaires, en fait. Mais maintenant, je suis sûr, je vais plus jamais le racheter.
Voilà.
Ils sont tous en bon état, en plus.
Il est fiché, celui-là. Ben, merci beaucoup, en tout cas, pour cette interview. Alors, voilà, la petite tradition du Manche Disque, c'est que l'invité choisit le dernier morceau, celui sur lequel on se dit au revoir, et on dit au revoir à nos auditeurs. Donc, est-ce qu'il y a un morceau qui te vient
Uncontrollable Urge, c'est un morceau de Divo.
Merci beaucoup, Jean-Yves.
Je t'en prie.
Au revoir.